Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et tout particulièrement dans une nouvelle émission Radio Météor. Alors, Radio Météor, c'est quoi ? C'est une émission poétique, vous l'avez bien entendu, c'est de la poésie et ça tombe bien, on est en plein dans le printemps des poètes. À l'occasion de cette nouvelle émission, on sera deux du même collectif, du collectif Météor, on vous en parle juste après. Et en face de moi, il y a Ramiro Oviedo. Ramiro, ça va ?
Ça va très bien. Merci à Radio Campus, merci à Hugo pour nous accueillir cet après-midi.
Voilà, alors moi c'est Sébastien Kieck, Ramiro et moi on fait partie du collectif Météor et on va vous proposer de passer une demi-heure de poésie ensemble. Un bon moment, j'espère, et on va notamment parler du livre de Ramiro qui vient de sortir aux éditions Corpus qui s'appelle Fauve. Et ensuite, dans une seconde partie d'émission, on s'intéressera à l'antipoésie et là on a... connaisseur, puisque Ramiro pourra nous en parler, notamment suite à la mort récente de Nicanor Parra, un grand antipoète chilien. Et avant toute chose, on va commencer par le splash poétique. Alors le splash poétique, c'est quoi ? C'est l'actualité poétique sur Amiens Métropole, la Picardie et les environs, donc tout ce qui se passe en termes de poésie. Alors, bien sûr, je l'ai dit en début d'émission, c'est le printemps des poètes. Alors on en profite pour faire une petite pub. Sur Amiens Métropole, c'est du 3 au 23 mars. Et Amiens est désormais ville en poésie, reconnue par le Printemps des Poètes au niveau national. Et il y a de très nombreuses actions qui s'y passent. Un marché de la poésie qui en a sa seconde édition. Une soirée poétique Météor, mais également des poètes, Dominique Sampiro notamment, et plein d'autres qui viendront parler de poésie et faire des animations partout dans la ville et dans les alentours. Alors Ramiro, tu as participé toi-même à cette opération, et notamment, c'était un poème, un village, je crois.
Exact, oui. Donc, j'étais invité à aller à la ville de Bertangle. Donc, j'ai rencontré monsieur le maire, les instituteurs à l'école. On a passé la matinée à parler de poésie avec les enfants. C'était vraiment une matinée très, très enrichissante. Les enfants, très curieux, très... ils m'ont montré qu'ils appréciaient la poésie. Voilà. Ensuite, j'ai écrit en fait deux textes.
C'était ça ta mission, hein, c'était d'écrire un texte.
La mission, c'était d'écrire un texte sur cette expérience. Et j'ai du mal à écrire sous commande, donc j'ai pas respecté les formats. Le premier poème, on va dire qu'il a été rejeté parce qu'il était trop long. Ils ont retenu le deuxième, qui j'ai dû l'improviser en 10 minutes parce que il fallait ça ou rien.
D'accord. Et alors, donc, on a eu la chance de lire ton poème dans les rues d'Amiens. Alors toi-même, tu ne l'avais pas vu. On t'a envoyé une photo.
Tout à fait.
Il est sur un panneau. Et donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir le lire. Et c'est vraiment un très beau poème. Hein. C'est pas parce que ce qu'on se connaît, Ramiro, mais je trouve qu'il y a vraiment une âme et quelque chose. Et un regard sur ce village où tu n'avais jamais mis les pieds, je crois. Hein.
Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, en parlant de Nicanor Parra, je suis un héritier de cette antipoésie et je l'applique un petit peu là, même si j'essaye de garder l'âme des enfants de l'école de Bertangle.
Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas le texte sous les yeux, mais on invite les auditeurs à regarder dans les rues d'Amiens, puisqu'il y en a partout de la poésie dans les rues. C'est affiché. Les poèmes sont donc au milieu des carrefours et donc c'est une vraie invitation à la poésie. Alors Ramiro, on enchaîne tout de suite sur ton actualité poétique, littéraire, donc la sortie aux éditions Corpus de Fauve avec un S, hein. Ouais. Donc, donc c'est un recueil qui a une préface de Serge Peille, donc qui est un grand poète, hein, qui a gagné il n'y a pas si longtemps le prix Apollinaire, et donc là c'est déjà une sacrée préface que tu as là, hein. Voilà.
Je suis très très heureux parce que pour moi, Serge Peille, c'est un des plus grands poètes français vivants, si ce n'est pas le premier. Avec toutes les excuses pour les autres poètes, mais pour moi, c'est mon frère, c'est le grand poète français vivant.
D'accord. Bah, c'est vrai que là, c'est vraiment pour toi, ça a dû être un honneur aussi qu'il puisse te préfacer ton recueil.
Tout à fait. Oh. J'ai eu la chance qu'il accepte.
Voilà. Alors, bien sûr, j'ai eu l'occasion de lire ton recueil. Hein. Je t'ai dit ce que j'en pensais.
Oui.
C'était une poésie très sonore, très rythmée, très engagée, digne héritière de ces poètes tels que Nicanor Parra, etc. On en reparlera après. Hein. Mais il y a cette dynamique, peut-être cette dynamite dans les textes qui existent. Et si tu veux bien, je vais lire un texte.
Avec plaisir.
Être poète, c'est sortir des mots de son chapeau là où il n'y a rien. On y met la vie, le cœur, le chapeau, et voilà. Même si l'on doit déplacer une pluie de tonnerre ou le sang desséché sur les herbes du verbe, le poète sans frein pointe son nez et crache l'éternité sans se décoiffer. Le poète de foire aux airs de gourou à son tour récoltera au mieux des crottes de moutons, du lait en poudre, au milieu d'une cour de novices. Alors c'est quoi ça? C'est un pavé dans la mare de la poésie?
Oui, c'est facile de tomber dans notre planète littéraire sur des pseudo-poètes qui font des crottes de moutons. Quoi. C'est la connaissance du langage, la connaissance de la littérature, les vides spirituels fait qu'on soit dégoûté parfois, déçu de ce qu'on peut lire avec les noms de poésie. Donc je trouve que c'est... Les gens, en mettant de côté tout ce qui est la rhétorique traditionnelle dans la poésie, ce qui c'est Nicanor Parra, et le poète il doit essayer de surprendre, de mettre le monde à l'envers. Le poète, il faut qu'il soit une sorte de franc-tireur. Personne ne s'attend où il va arriver et de quel côté il va tirer. Et ils ne font pas ça, la plupart des poètes que je connais. Donc, j'essaye, avec toute modestie, de suivre le pas de ce vieux poète qui était très jeune. Il est mort à l'âge de 103 ans, cependant, il a été vraiment capable de nous étonner, de nous surprendre. Voilà.
Ah oui, on sent qu'il y a vraiment une sorte de lignage, en tout cas une inspiration un petit peu de cette poésie hein, donc chilienne. Alors toi, tu viens de l'Équateur, hein,
oui.
Hein, ça fait plus de 30 ans, je crois, que tu es en France.
30 ans.
Et c'est vrai que tu as baigné, tu as pu me le dire, dans ce chaudron poétique qu'est l'Amérique du Sud, avec ses révoltes, ses espoirs, ses coups de colère. Et c'est vrai que tu es un petit peu imprégné de tout ça, et nous, c'est intéressant... d'entendre cette poésie. En tout cas, grâce à toi, je l'ai découvert. C'est vrai, je te disais souvent, Ramiro, j'ai l'impression que des fois, tu écris avec une mitrailleuse. C'est extraordinaire parce qu'on prend des impacts en même temps. Hein, c'est ça.
Eh bien, si tu as lu les derniers textes de Fauve, c'est l'histoire de mon voyage en France. Donc, je raconte mon exil. Pourquoi? Non, c'est dur, c'est insupportable de dire ça, mais on habitait l'enfer. Non, il y a beaucoup de copains qui sont disparus, des copains à moi qui sont morts. Et quand on compare l'ambiance des écrivains et de la littérature en France, par exemple, ou en Europe, c'est le paradis. C'est le paradis. Et là-bas, moi j'avais, je ne sais pas, 16, 17, 18 ans, quand on sortait à faire un graffiti sur les murs, où on écrivait des poèmes, où on disait des poèmes à la rue. Et tout de suite, on était pris par les flics, et on était matraqués, on nous menait en tôle, quoi. Donc, et pas une fois, plusieurs fois. Et parfois, même, on a été torturés. Donc, c'est ça, la poésie, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Je n'ai pas pu me défaire de ce prix, tu vois. J'ai des cicatrices encore.
D'accord. Et on le sent. Et en tout cas, j'ai envie de dire, tu nous en fais profiter hein, dans le bon sens, c'est-à-dire que tes textes rayonnent et rayonnent à travers ces cicatrices et ils rayonnent en poésie. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Et je crois que c'est une lecture dont on ne sort pas forcément indemne. En tout cas, il reste quelque chose après. Voilà. Et donc ça, merci Ramiro. Donc le livre est chez Corpus.
Oui.
Peut-être à la fin de l'émission, tu nous liras un petit texte.
Oui,
hein, de tirer de Fauve hein, pour clôturer l'émission, ça serait une excellente idée. Là, on va partir, si tu veux bien, en Amérique du Sud. Et notamment, alors, on a parlé de Nicanor Parra, hein, qui est des grands poètes chiliens, antipoètes, qui est décédé il y a peu. Mais il avait une sœur, hein, Violeta Parra, dont tu m'as déjà parlé. Et on va passer une petite chanson. Donc, c'est Rosemary Stanley, mais c'est une chanson de Violeta Parra. Hein.
Mm-hmm.
Thank you. toujours sur Radio Campus dans l'émission Radio Météor, la radio dans la radio, et avec la poésie. Donc, et on est avec Ramiro Oviedo qui nous parle de Fauve, son recueil sorti chez Corpus. Alors Ramiro, la chanson qui est passée de Rosemary Stanley, donc c'est une reprise de Violetta Parra. Hein, je ne sais pas si tu dis d'ailleurs, c'est peut-être Parra.
Hein.
Voilà, tu nous le diras. Et en fait, est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette chanson? Est-ce qu'elle est connue en Amérique du Sud? Et voilà, comment tu as rencontré aussi peut-être cet univers de Violetta Parra et de son frère, Nicanor?
Oui, et avec plaisir. Regarde, j'avais 18 ans quand j'ai commencé la fac, non, à Quito. Et à l'époque, il y avait une dictature. Et la fac a été fermée, je suis resté dehors, il n'y avait plus d'université, et il a fallu chercher un boulot, le temps que la fac puisse être réouverte. Et on est revenu après, et la répression du gouvernement était de plus en plus radicale, donc on commençait à entendre la musique dans des haut-parleurs. Ils mettaient de la musique qu'on appelle engagée, la musique des chanteurs engagés. No? Il y avait des groupes chiliens, toujours, Inti Illimani, Kila Payun, surtout les deux. Et Violetta Parra et Atahualpa Yupanqui, qui c'était des chanteurs qu'on ne connaissait pas. Bon, petit à petit, ça a commencé par là. Et on se concentre de plus en plus en Violetta Parra pour découvrir cet univers d'une sensibilité folle. Violetta Parra, c'est les nerfs en électricité permanente. C'est une femme d'une sensibilité de malade, quoi. Comme son frère, parce que son frère Nicanor, il est aussi ça. C'est l'homme qui, on ne peut pas l'imaginer sans contradiction.
C'est ça. Alors, c'est vrai que je me suis renseigné sur Violetta Parra. J'ai vu le film qui lui est dédié, qui s'appelle Violetta. Et en fait, c'est vrai qu'on voit bien que c'est une écorchée vive. Oui. Hein, sûrement comme Nicanor, mais on voit aussi qu'il y a une histoire familiale qui est douloureuse.
Tout à fait. Donc, il y a une famille de paysans, on va dire, qui vivent dans le monde rural, pauvres. Hein. Donc, le seul qui a réussi à faire des études, là, c'est Nicanor, qui est parti à Santiago, à la capitale, il a fait des études, et qui est devenu prof de, je crois que de physique nucléaire, quelque chose comme ça. Bon, et sa sœur, qui était plus petite, de 4 ans, elle a réussi à rentrer à faire des études pour être institutrice, mais ça ne marche pas. Il y avait des problèmes. Donc, elle a quitté ça, elle est partie après à faire des recherches personnelles sur la musique et la poésie populaire. Donc, il a parcouru tout le monde rural chilien pour découvrir l'âme du peuple, les ancêtres, non? Et des recherches qui, donc, avant, n'ont pas été faites. Il ramasse tout ça et l'intègre petit à petit à sa musique qui va devenir, après, les florilèges, on va dire, de la poésie populaire chilienne. Avec toujours les conseils intelligents de Nicanor. Non? Bon, lorsqu'elle se met à chanter, elle impressionne toujours par cette sensibilité. Et pas seulement dans la poésie, hein. Elle a fait aussi de la céramique, elle a fait aussi de la brodure, de la broderie.
Oui, elle a même été exposée au Louvre.
Au Louvre, elle a exposé, c'est la première fois dans l'histoire du Chili que quelqu'un arrive à exposer ses toiles. Comment on s'appelle ces arpilleras, une espèce de tapis, de tapis extraordinaire. Donc, d'une femme impressionnante, d'une polyvalence.
C'est vrai qu'elle avait apparemment une audace.
Oui.
Une audace alors créative.
Elle a confiance en elle. Elle a confiance en elle. Elle est l'exemple de la femme. Hier, on fêtait les jours de la femme. S'il y a une femme qui m'impressionne pour donner un exemple de ce qui devrait être une femme, c'est Violetta Parra. Violetta Parra qui déjà a eu un exemple extraordinaire dans une autre femme chilienne, Gabriela Mistral, poète aussi, qui était l'institutrice de Pablo Neruda. Donc Gabriela Mistral, c'est la première prix Nobel du Chili, les années 1945, par là, tu t'imagines. Et ensuite, Violetta, qui réussit quand même à voyager, et qui se fait connaître en France, c'était l'époque de la dictature, donc elle arrive en France, elle après voyage, il va trouver en Suisse beaucoup de copains, va faire connaissance de son, son fiancé, son amour.
Oui, qui est présenté par son fils. Hein. Tu disais que tu avais rencontré son fils,
oui.
Violette Aparin, et qui était aussi poète, musicien. Et...
musicien, un extraordinaire chanteur. Ángel Parra, pour nous, latino-américains, c'est une référence de la musique chilienne et latino-américaine contemporaine. Donc, il a quitté le Chili avec sa mère. Il s'est installé à Paris. Il est décédé il y a, je ne sais pas, 4 ans, je ne suis pas sûr. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance de lire des textes avec lui à Marseille, dans le Festival de la Marelle. Et j'ai eu la chance aussi de lui faire venir à l'université où j'ai travaillé, à l'ULCO, à Boulogne-sur-Mer. Donc il est venu deux fois, il a lu des textes, il a chanté. Mais pareil, une famille de fous, une famille d'un talent.
Alors tu parles d'une famille de fous, hein. Alors c'est vrai, alors c'est des fous de poésie aussi. Hein.
Oui.
Alors, c'est-à-dire, et là, là c'est le prochain sujet, hein. C'est la seconde partie, on y est déjà parce qu'on voit qu'il y a toute cette constellation familiale autour de la poésie et cette folie un peu ambiante créatrice. Et là on va parler d'antipoésie.
Oui, mais juste avant, parce que tu m'avais posé une question sur la chanson. Donc, Arriba quemando el sol. Arriba quemando el sol, c'est en haut, il brûle le soleil. Il brûlait le soleil. C'est une chanson pour le monde, on va dire, c'est les années 60-70. C'est le Chili, l'Amérique latine, complètement écrasé par le pouvoir du capitalisme. Donc les patrons, les chefs d'entreprise, etc., ils font ce qu'ils ont envie, et les ouvriers, les paysans, les marginaux vivent dans la situation impossible. Et c'est là où Violetta il fait ce texte pour dire comment il vit le paysan, comment il vit les mineurs, les miniers, non, los mineros, non, les conditions de vie infrahumaines des travailleurs ruraux, des travailleurs de la ville, des pauvres en général. Donc voilà, c'est ça le sujet. Et il y a un rythme progressif, non, ça va en crescendo, et à la fin, c'est une explosion de la rage de la femme qui ne supporte pas ses conditions de vie. Et donc, l'église, l'armée, et les pouvoirs établis comme responsables de cette catastrophe.
Oui. Alors, on sent qu'il y a cette révolte, hein, c'est vrai, qui conduit à la créativité, hein, puisque c'est ça, à travers ses chansons, etc. Et c'est vrai que si son frère Nicanor, hein, Parra, hein, on va parler donc de lui, donc il y a une superbe anthologie, poème et antipoème, 1937-2014 de Nicanor Parra, en édition bilingue, qui est sortie au Seuil l'an dernier. Alors, grâce à toi, j'ai découvert Nicanor Parra, j'ai plongé en antipoésie, et en fait, c'est vrai que là, il y a cette... Alors, on le voit pas, c'est dommage, mais il y a ces deux jambes écartées, et au milieu, il y a ce texte « La poésie mourra si on ne l'offense pas, il faut la posséder et l'humilier en public, après, on verra ce qu'on fait. »
Voilà.
Alors,
c'est... Bon, Nicanor était quelqu'un qui, comme je t'ai dit tout à l'heure, il fallait surprendre, c'était un franc-tireur, donc supprimer d'office toute cette rhétorique ancienne, et l'ironie, et du sarcasme permanent, non, et la langue de tous les jours, la langue colloquiale, la langue de la rue.
C'est ça, c'était une langue qui n'est pas sophistiquée, il n'y a pas de verbiage inutile, on va à l'essentiel. Hein.
Donc, et comme ça, il réussit à faire une poésie différente, une poésie qui est fraîche, et innovante, on va dire. Non, et c'est grâce à ça que la poésie et que les poètes deviennent, on va dire, des éléments vitaux. Parce que la poésie sert à quelque chose. Elle est très importante, elle est substantielle, elle est essentielle pour l'être humain. C'est comme pour, je ne sais pas, du lait, comme de l'eau. Si on n'avait pas la poésie, on serait vraiment en train de crever. Mais les gens ne se rendent pas trop compte de ça. Et ça, on le voit dans le monde de l'édition.
Alors,
Parce qu'ils se plaignent tout, on ne vend pas les poèmes, les poètes, ça ne sert à rien, la poésie, ça ne sert à rien. Donc, bien sûr, il y a d'autres genres qui profitent des lecteurs.
C'est vrai que là, il y a deux types de poésie. On parle de la poésie un peu institutionnalisée, hein, donc, et aussi de la poésie libre, c'est-à-dire indépendante, etc., et qui cogne un peu partout et qui a du mal peut-être à se faire entendre. Et c'est vrai qu'il y a ce texte, ce poème de Nicanor, hein, qui, tu parlais de lait juste à l'instant. Ouais. Alors, il y a ce texte qui, et je le lis, « La poésie de vaches sacrées, la poésie de taureaux furieux. À la poésie des nuages, nous autres, nous opposons la poésie de la terre ferme, tête froide, cœur chaud. Nous sommes terre fermiste, décidée. À la poésie de café, la poésie de la nature, à la poésie de salon, la poésie de la place publique, la poésie de la protestation sociale, les poètes sont descendus de l'Olympe. »
Tout à fait. Il n'y a plus de Parnasse, il n'y a plus de monde sacré où y vivent les muses, non? Et le poète, c'est un homme de la rue. C'est un homme civil qui souffre comme tout le monde, qui doit parfois prendre en charge le rôle de l'éponge, no? Absorber toute la misère quotidienne et tous les coups qui donnent le système à tous les êtres humains. Et comme les autres sont occupés à travailler comme des fous, le poète, il prend le temps de parler au nom de ces gens qui n'ont pas le temps. Et je pense que grâce à ce que tu viens de lire, ça me fait réfléchir à cette manière de Nicanor Parra de prendre les mots comme un véhicule, comme une manière pour inviter à réfléchir, non? Pour transmettre une expérience, pour toucher des choses qui sont de fond. C'est ça, il me semble, et qui peuvent toucher le cœur et la tête des lecteurs. Donc, c'est pas seulement. Le poète, ce n'est pas un rêveur comme on imagine. Le poète, c'est un militant de la pensée, c'est un militant de la vie. Et il doit toucher le cœur, il doit toucher la tête des lecteurs.
C'est ça. Et alors là, pour ça, il nous touche. Il nous provoque aussi. Hein. Je crois
tout
que c'est
fait.
Ça aussi. Alors là, on arrive un petit peu à un moment de l'émission qui s'appelle « La festion qui tâche ». Donc la poésie, l'antipoésie. Alors, les poèmes de Nicanor Parra, les antipoèmes, sont-ils des poèmes? Alors là, je demande au spécialiste, un antipoème est-il un poème?
Je pense que l'antipoésie, c'est la vraie poésie. Mais il faut que je précise quelque chose. Et les spécialistes en littérature, même les profs de fac, j'ai parlé avec des collègues qui disaient mais l'antipoésie, c'est déjà démodé, c'est un truc mort. Pourquoi tu écris de l'antipoésie? Encore un nouvel antipoète. Et moi, je disais, pour moi, l'antipoésie, c'est pas. Personne n'a décrété la mort ni de la poésie ni de l'antipoésie. Donc, voilà, Nicanor Parra, il y a 100 ans, 112 ans, 103 ans, il est le plus jeune de tous les poètes que je connais. Donc, et l'antipoésie, c'est cette gestion qui fait, la démarche qui fait le poète pour secouer les mots, secouer les paroles, secouer la syntaxe et faire autre chose. Et c'est un électrochoc pour le lecteur. Donc, une manière de créer quelque chose de différent, une nouvelle dimension de la langue, à mon avis. L'antipoésie, c'est la poésie coupée de la rhétorique ancienne, du rouge à lèvres, de tout ce qui est de solennel, de tout ce qui la rend sérieuse et importante. Donc, Nicanor Parra, avec l'antipoésie, il met la poésie à la portée de tout le monde.
C'est ça. Alors l'idée, c'est de la désacraliser, hein, c'est ça.
Tout
il nous dit, les poètes sont descendus de l'Olympe. Hein. Donc il faut arrêter de les prendre pour des dieux, de diviniser la poésie, qu'elle soit dans un carcan un petit peu savant ou élitiste, hein, mais bien de la, il le dit, de lui permettre de revenir dans la place publique.
Et ça, parce qu'à l'époque, en Amérique latine, hein, qui était la mode? C'était quoi la mode de la poésie des années 60, on va dire? Il faut dire que Nicanor Parra est né en 1914, il me semble. Donc, lorsqu'il se fait connaître, il avait déjà 18, 20 ans. Et on était vers les années 20, dans plein mode des avant-gardes. Donc, les avant-gardes poétiques européennes, le surréalisme, le dadaïsme, tout ça, ils ont envahi l'Amérique latine. Et il y a déjà Borges, l'Argentin, qui commençait à faire des choses. Il y a Huidobro, un grand poète chilien, qui rentre dans les avant-gardes avec le mouvement qui s'appelle le créationnisme. C'est une branche du dadaïsme, quelque part. Mais bon, c'est une poésie très élaborée, très particulière. et qui confrontait un peu la vision des poètes comme Neruda. Neruda, c'était un poète engagé politiquement, radicalement, avec le Parti communiste et avec la cause populaire, si tu veux. Donc, Nicanor Parra regardait de distance. Il ne voulait pas saluer ni s'incliner devant les poètes qui avaient suivi les normes du code de l'Académie, non? Donc, tout ce qui était la poésie importante, c'était la poésie des poètes modernistes, avant les avant-gardes. Avec les avant-gardes, on tue le modernisme. Un grand poète nicaraguayen, Rubén Darío, qui était extraordinaire, c'est le fondateur de la vraie poésie latino-américaine du XXe siècle, non? Mais ça, c'est fini avec les avant-gardes. Et dans cet univers, Nicanor Parra, il dit, ils sont trop intellectuels, c'est trop intelligent cette poésie, il faut faire autre chose. Donc, mais c'était aussi une vision de la vie. Lui, il vient d'un monde rural, d'un monde de paysans. Donc, confronter ça au monde de l'académie, au monde des éditeurs, etc., c'était pour lui une manière de prendre une position différente. Et voilà comment il trouve la manière de créer une nouvelle manière d'écrire avec l'antipoésie pour marquer la frontière avec Neruda et toute la poésie politique engagée. Il y avait un autre poète extraordinaire en péruvien qui s'appelle César Vallejo, non? C'est plutôt de la poésie humaine, mais rien à voir avec Nicanor Parra, et presque rien à voir avec Neruda. Nicanor Parra et lui, il y a qu'un
Il n'y en a qu'un.
Nicanor Parra,
Il n'y en a qu'un.
non, qu'un, et de l'humour.
Il y a de l'humour.
De
Alors, c'est vrai
l'humour,
qu'il y a de l'humour noir. Hein. Ça parcourt tout son recueil, cette anthologie magnifique, hein, vraiment, qui reprend des dessins, des œuvres d'art, parce qu'il était aussi plasticien. Enfin, il a fait feu de tout bois en poésie. Et vraiment, on vous invite à découvrir cette incroyable anthologie. Donc, 1937-2014, poèmes et antipoèmes de Nicanor Parra, donc aux éditions du Seuil. Donc, en édition bilingue, donc espagnol-français. Et donc, Ramiro, l'émission touche à sa fin. Déjà,
Oui,
c'est
c'est très
passé
rapide,
vite,
hein.
hein, c'est passé vite. Donc, comme convenu, tu nous lis un petit texte que tu as écrit
Pour Météor.
pour Météor. Donc, on revient sur le collectif. C'est à toi, Ramiro.
Voilà, donc, ma grand-mère aurait été une menteuse. Rassure-toi, me disait-elle, on est tous égaux, mon petit crapaud. On a les mêmes orteils, enlevé coton. Les mêmes chevilles, enlevé coton. Les mêmes nombrils. Et à chaque fois qu'elle disait ça, elle se jetait sur mon nombril comme s'il allait le manger. J'éclatais de rire et elle se marrait. Maintenant, je sais que c'était faux. Chaque petit orteil de Neymar vaut 20 millions d'euros. Et chacune de ses chevilles est cotée 1 million d'euros sur le marché. En ce qui me concerne, personne sauf ma femme ne donnerait un sou pour toute mon anatomie, orteils, chevilles et nombril compris. Bon, disons que Neymar est un illettré heureux, et moi, même pas jaloux. Il roule en Lamborghini, et moi, en Météor. Mes orteils et mes chevilles ne valent rien, mais je suis la colonne vertébrale de cette page, la tête de mon oreiller, la jugulaire de ma parole bleue, la langue couteau des Hauts-de-France, le cœur de mon cerisier. S'il vous plaît, ne croyez pas que je suis un pauvre type qui cherche à dire but! Les yeux et les bras levés au ciel.
Eh bien, merci Ramiro pour cette lecture. Et effectivement, on sent la filiation et aussi la poésie un peu coup de poing, en tout cas anti-système, dans la veine de l'antipoésie de Nicanor Parra. Donc, on rappelle, ton recueil Fauve est aux éditions Corpus. Tu seras sur le Pincement des Poètes à de nombreuses occasions, et notamment, on sera ensemble sur la scène pour la soirée poétique Météor. On fait un coucou également à Christophe de Carpel et Antoine Maine, qui n'ont pas pu venir, qui font partie également du collectif, à Sylvie, à Mathilde et à tous ceux qui viennent avec nous assister à nos petites réunions poétiques et qui font avancer un petit peu cette vie poétique sur Amiens. Ramiro, tu voulais dire quelque chose?
Non, merci à Hugo encore et merci à Campus, à Radio Campus.
Voilà, effectivement, merci à Hugo qui était à nos côtés tout le long de l'émission, bien sagement. J'espère qu'on a été des bons élèves, Hugo. On n'a pas trop cassé tout en poésie ici. En tout cas, on était très content d'être avec vous pour cette première émission qu'on pourrait appeler pilote, effectivement, comme Hugo Nuzet, peut-être émission zéro. Radio Météor émission zéro. Donc, c'était aujourd'hui avec vous, donc sur les antennes de Radio Campus. Alors, si vous souhaitez être avec nous en poésie, il y a une possibilité d'interaction, c'est-à-dire que vous nous envoyez, on a un compte Facebook Collectif Météor, vous pouvez nous envoyer, vous abonner déjà, vous nous envoyez éventuellement vos poèmes, vos textes poétiques, et donc on les lira et peut-être on les passera, je l'espère, sur l'antenne de cette émission, et on vous fera partager la poésie locale, la poésie comme ça qui naît sur les ondes et qui continue en tout lieu, en tout point, en Picardie, sur Amiens. Merci Hugo, merci Ramiro, on se dit à très bientôt pour la prochaine émission. On accueillera certainement Christophe de Carpel pour la sortie de son recueil Cosmoesia, aux éditions de la Chouette Imprévue. Voilà,
merci.
Merci et à très bientôt sur Radio Météor.